Les matins de France Culture.
La revue de presse internationale de Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Guillaume.
Guerre de l'information ou guerre contre l'information?
Oui, la chose est assez rare pour mériter d'être signalée. Donald Trump a raison, du moins sur un point. Il y a bien aujourd'hui une épidémie de fake news aux États-Unis. Grâce à un article du Washington Post, la chose saute même désormais aux yeux. Depuis le début de la semaine, le quotidien de la capitale révèle, à la manière d'un feuilleton, comment ces journalistes ont évité de se faire piéger. On y apprend qu'un sbire de Donald Trump, James O'Keefe, a essayé de berner les journalistes du Washington Post en leur envoyant une femme, laquelle affirmait avoir été victime d'un viol perpétré par Roy Moore, l'actuel candidat républicain pour le poste de sénateur de l'Alabama, soutenu par Donald Trump. O'Keefe espérait ainsi que le journal publie l'info, pour pouvoir ensuite le tourner en ridicule, et surtout remettre en question la crédibilité de plusieurs autres accusations portées contre Roy Moore et révélées par le journal deux semaines plus tôt. Sauf que The Washington Post n'est pas tombé dans le panneau. Alors, ce n'est pas la première fois en réalité que O'Keefe se lance dans ce genre de machination débile, précise le magazine Slate, mais surtout O'Keefe ne représente aujourd'hui qu'une petite partie de cette industrie des fake news. Sans compter que Donald Trump en personne contribue à alimenter cette machine à foutaise. On connaît sa haine intarissable des médias, avec parfois d'ailleurs des conséquences pour le moins inattendues. C'est ainsi par exemple qu'une chaîne de télévision libyenne, 218 TV, s'est récemment servie des accusations répétées de Trump contre CNN pour mettre en doute la crédibilité des révélations de la chaîne américaine sur l'existence d'un vaste marché aux esclaves en Libye. Tout en reprenant les griefs du président américain, la chaîne de télé libyenne va même jusqu'à réclamer une enquête portant non pas sur les trafiquants d'êtres humains, mais sur les journalistes de CNN. Enfin, on ne compte plus les tweets bilieux de Donald Trump dans lesquels il assène ses théories du complot et autres fake news. Dernier exemple en date mercredi, lorsque le président a retweeté des vidéos islamophobes du parti d'extrême droite britannique Britain First. Mais là encore, pour Washington, la véracité des tweets de Trump est accessoire, ainsi que l'a déclaré elle-même la porte-parole de la Maison-Blanche. Que les vidéos soient vraies ou pas, la menace est réelle. À ce détail près, toutefois, nuance encore The Washington Post, que la menace en question ne vient pas non pas d'un danger musulman, mais d'une idéologie d'extrême droite islamophobe.
Et voilà comment on reparle de la folie de Donald Trump, Thomas.
Oui, cette fois-ci, ce ne sont plus les psychiatres qui le disent, mais les journalistes eux-mêmes, à l'instar de l'éditorialiste du New York Daily News. Selon toute définition honnête et simple, dit-il, le président des États-Unis est fou, il est malade mentalement. Et là encore, les conséquences des frasques de Donald Trump sur le traitement de l'information sautent aux yeux. Au Royaume-Uni, toute la presse britannique ne parle plus que de cela, de ce tweet acerbe du président américain attaquant frontalement la première ministre Theresa May. Nombre de journaux y voient un coup de canif porté à la relation spéciale entre Washington et Londres. Les appels à annuler la visite d'État que Donald Trump doit effectuer en janvier prochain, où il doit notamment rencontrer la reine, se sont multipliés. Hier, The Daily Telegraph affirmait même dans la soirée que cette visite était annulé, le projet est remisé, une information pourtant non confirmée. Toujours est-il que la presse outre-Manche se retrouve donc à escamoter ainsi ce qui aurait dû être le sujet a priori à la une de tous les journaux. Après des mois de discussions infructueuses, l'Union européenne a accepté un accord financier avec la Grande-Bretagne. Aucun montant précis n'a été débattu pour le futur chèque britannique, mais on parle déjà de 45 à 55 milliards d'euros. Or, même si certains, à l'instar de l'hebdomadaire pro-Brexit, The Spectator, jugent que le prix à payer vaut le coup, d'autres estiment qu'on a menti aux Britanniques sur les coûts réels du Brexit. Les partisans de la sortie du pays de l'Europe nous avaient expliqué que l'on remettrait les mains sur notre argent et que l'on pourrait allouer chaque semaine 350 millions de livres sterling supplémentaires à notre système de santé. On sait aujourd'hui qu'il s'agissait de l'une des plus vastes fumisteries de l'histoire politique britannique, fulmine notamment The Evening Standard. Et puis, après les révélations sur la facture du divorce, place à la question de la frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord, à en croire The Times, le Royaume-Uni serait disposé à se rapprocher de la position de l'Union européenne afin d'éviter le rétablissement d'une frontière physique entre le Nord et le reste de l'île. Le gouvernement de Theresa May envisagerait d'accroître les pouvoirs de la province d'Irlande du Nord, notamment en matière de douane. Mais à regarder de près donc les premières pages des journaux ce matin, à l'instar du Times et du Guardian, force est de constater que toutes ces questions semblent aujourd'hui largement éclipsées par la dernière folie de Trump. En réalité, pour être tout à fait exact, la presse britannique était surtout saturée jusqu'à présent d'articles sur le mariage l'an prochain du prince Harry, l'occasion à la fois pour la famille royale de se refaire une virginité et pour les Britanniques de penser enfin à l'avenir sous des jours heureux. Mais ainsi que l'écrit ce matin The New York Times, Trump a donc réussi le tour de force d'enlever les nouvelles du mariage royal de la une des journaux britanniques. Enfin, Guillaume, dans sa fougue, mercredi, Donald Trump s'était dans un premier temps trompé de destinataire, voulant s'adresser à la première ministre britannique. Il avait écrit à une autre, Theresa May, une Britannique qui s'était inscrite sur le réseau social en utilisant son deuxième prénom. C'était en 2009, à l'époque où la chef actuelle du gouvernement n'était encore que députée. Celle qui n'a que 6 abonnés sur son compte Twitter a été littéralement inondée donc de messages suite à la méprise de Trump. C'était un peu irréel, j'ai fini par en rire, mais je ne pouvais plus quitter ma maison, a-t-elle expliqué hier avant d'ajouter, j'étais inondée d'appels de la presse du monde entier.
Merci beaucoup Thomas Cluzel.